Bonjour et merci Emmanuel Faux. L'Inactualité reprend l'antenne sur Europe 1. On marche ensemble jusqu'à 16h qui vive. C'est parti.
Europe 1. 15h, 16h. Qui vive. Raphaël Antoven.
Harry Potter et l'enfant maudit, soit le 8e volume des aventures du sorcier, se trouve en librairie depuis hier et nous n'allons pas vous en parler aujourd'hui. Mais du reste en revanche, et à cette occasion, des aventures du jeune sorcier, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte, de la différence entre la technique et la magie, des mondes parallèles qui n'en sont pas et de l'œil qu'un sorcier pose sur nos vies de moldus, c'est-à-dire de mortels. Harry Potter est à l'honneur dans Qui vive aujourd'hui, comme dans Philosophie Magazine, qui lui consacre un hors-série remarquable auquel participe notre invité Marianne Chaillet, qui a signé chez Ellipse un très bon Harry Potter à l'école de la philosophie.
Harry Potter, nous revoilà face à face.
Voldemort.
Oui, vois ce que je suis devenu. Regarde ce que je dois faire pour survivre. Vivre aux dépens d'un autre, comme un parasite. Sois pas idiot. Pourquoi connaître une mort atroce quand tu peux me rejoindre et vivre? Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher.
Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Raphaël.
Bienvenue de nouveau sur Europe 1. Dans Qui vive, vous étiez déjà venu nous parler de Game of Thrones. Autre temps, autre âge de la vie, autre mœurs. C'est de Harry Potter et d'un monde pas si enchanté ni si joyeux que ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors le bien et le mal n'existent pas, déclare Voldemort, l'affreux Voldemort, au tout jeune Harry Potter qu'il essaie de tuer pour la deuxième fois, c'est pas la dernière d'ailleurs. En quelques mots, Marianne Chaillant, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas en tête toute cette galerie de personnages qui sont Harry Potter, Voldemort, et quel est l'enjeu ici?
Alors Harry Potter comme Voldemort sont deux sorciers qu'il ignorait à leur naissance. Ils ont grandi dans l'ignorance du monde de la magie et le jour de leurs 11 ans, ils ont reçu une lettre que peut-être un certain nombre d'auditeurs regrettent de ne pas avoir reçue eux-mêmes. Une lettre leur annonçant...
Ceux de nos auditeurs qui n'ont pas reçu cette lettre, puisque voilà. Ceux qui l'ont reçue ne doivent pas s'en vanter.
Et cette lettre leur annonce non seulement qu'un monde de magie existe et qu'en outre ils sont sorciers, qu'ils ont des pouvoirs. Harry Potter est un jeune garçon dans la saga, alors que Voldemort appartient à la génération précédente, la génération de ses parents. Et il a fait le choix, parce qu'il souhaite ne jamais mourir, d'entrer dans la voie du mal, bien qu'il nie que le mal existe, dans l'extrait que nous venons d'écouter.
C'est un des paradoxes de Voldemort. Il n'arrête pas de dire que le bien et le mal n'existent pas, et ce qui est la figure ou la parole du mal lui-même. On est ici d'emblée, d'ailleurs, tout de suite, hein, en philosophie avec vous, Marianne Chaillant, puisque on ne peut pas dire les deux à la fois.
En effet. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, Voldemort semblerait d'ailleurs reprendre une formule nietzschéenne.
Rappelons que Nietzsche est l'auteur de « Par-delà, bien et mal ». Voilà.
Et certains croient voir du coup dans la figure de Voldemort l'homme fort, celui qui est capable d'agir par-delà bien et mal et d'augmenter ainsi sa puissance. En vérité, ce personnage donc de Voldemort, qui en vérité s'appelle Tom Jedusor, mais qui s'est baptisé Lord Voldemort pour donner du prestige à la carrière qu'il a entamée dans la magie noire, ce jeune sorcier, un peu moins jeune à l'époque où nous le rencontrons, fait pourtant le choix du mal puisqu'il tue, il tue pour préserver sa propre vie.
L'enjeu est que pour sauver son âme, il doit en déposer des parcelles dans différents endroits qu'on appelle des horcruxes. Le problème, évidemment, c'est que pour diviser son âme, il faut commettre des meurtres.
Exactement. Et là, du coup, il m'a semblé qu'on entrait dans une problématique platonicienne. Nous venons d'évoquer Nietzsche, mais la problématique est peut-être platonicienne, à savoir...
En quel sens?
À quoi bon agir vertueusement? Y a-t-il un lien entre le bonheur et la vertu? Et il semblerait au contraire que Voldemort nous montre que si nous voulons tâcher à être heureux, d'être heureux, eh bien il faut savoir faire le choix du mal. Et je ne sais pas si vous, bien sûr, vous rappelez...
C'est tout le débat entre Calliclès et Socrate dans le Gorgias, dans le dialogue de Platon sur la question de savoir comment être heureux. Calliclès dit « fais ce que tu veux pour être heureux ». Socrate dit « la vertu l'emporte ».
Exactement. Et peut-être vous rappelez aussi de ce personnage qui est évoqué dans le Gorgias, qui s'appelle Archélaos, ouais. Qui a tué tous les membres de sa famille qui pouvaient prétendre au trône pour devenir lui-même l'héritier du trône. Et l'interlocuteur de Socrate, Pholos, lui dit « Tu vois, cet homme, à force de crime, a gagné le bonheur. » On peut donc être heureux en commettant le mal.
À quoi Socrate répond « Mieux vaut subir l'injustice que la commettre. »
Et à quoi il répond d'ailleurs que Archélaos non seulement n'est pas heureux, mais qu'il est le plus malheureux des hommes. Et en fait, Platon va faire, à travers Socrate, va dire que le lien est indissociable, comme analytique, entre la vertu et le bonheur, entre le vice et le malheur. Et je crois que c'est la thèse que J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, développe à travers le personnage de Voldemort.
Il n'est pas heureux parce qu'il veut le pouvoir et il croit conquérir le bonheur de cette façon-là.
Et comment le montrer pour le lecteur ou pour le spectateur des films, sinon à travers l'altération physique qu'elle fait subir à son personnage, Lord Voldemort?
Alors il faudra revenir sur cette question, pardon, on va en parler tout à l'heure parce que c'est très important. Voldemort effectivement change de gueule, il a surtout la tête d'un serpent, on l'a privé de son nez et à la place il y a deux fentes. C'est épouvantable quand on pense en plus que c'est Ralph Fiennes qui l'incarne, lequel est plutôt joli garçon. C'est toute une histoire. En amont de tout cela, restons chez Platon un instant et venons-en à une autre anecdote qu'on trouve également dans La République et qui a donné le jour à un des outils qu'on trouve dans Harry Potter, c'est la cape d'invisibilité. Écoutez ça.
Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage.
Qu'est-ce que c'est ?
Ça ressemble à une cape.
Vas-y, essaie-la pour voir.
Europe 1. Raphaël Antoven.
La cape d'invisibilité rend invisible celui qui la porte. Bien. On trouve dans la République de Platon la même histoire avec l'anneau de Gigès qui, quand on le retourne, dissimule son possesseur. Ce qui rend le brave pêcheur Gigès immédiatement un monstre, un type épouvantable qui viole la reine, tue le roi, etc. etc. Façon de dire dans le dialogue de Platon... Ben qu'on est vertueux tant qu'on est sous le regard de la police et que le jour où on trouve un moyen de se planquer, on cesse de l'être. La cape d'invisibilité pose à peu près les mêmes problèmes ici, hein, Marianne Chaillant.
Exactement. Est-ce qu'une action vertueuse est réellement possible ? Est-ce qu'il existe des hommes moraux ou bien est-ce que leur vertu n'est que le nom d'emprunt de la crainte qu'ils éprouvent de se faire prendre s'ils commettaient le mal ?
Est-ce que c'est la loi qu'on respecte ou est-ce que c'est la police ?
Exactement. Et il me semble que J.K. Rowling prend part à ce débat que d'ailleurs Tolkien lui-même avait repris dans Le Seigneur des Anneaux.
Bien sûr, puisqu'il avait repris l'image, alors là pour le coup plus spécifiquement de la bague dont on retourne le chaton. Hein.
Et Tolkien lui était plus pessimiste, puisque si vous vous rappelez bien en fait, l'anneau ne parvient pas, personne ne parvient à se débarrasser de l'anneau. Et si l'anneau est détruit à la fin de la saga, c'est quasiment par accident, il tombe dans les laves du Mordor. Tolkien, très pessimiste, pense que l'homme vertueux n'existe pas. Là où J.K. Rowling, à travers la figure de Harry Potter... auquel elle a donné la cape d'invisibilité et non l'anneau, montre que l'action vertueuse est possible, car Harry, pourvu de cette cape, pouvant faire ce qu'il souhaite, je ne sais pas si vous vous rappelez la première chose qu'il fait, il ne va pas du tout voler le sujet des examens, il ne va pas dans le dortoir des filles de Gryffondor, observer, bon. Non, pas du tout, il va dans la section interdite de la bibliothèque. Il est vertueux, il ne commettra jamais le mal, il ne servira jamais son intérêt particulier. La vertu donc est possible alors même que l'on pourrait faire le mal dans l'assurance de ne jamais être pris.
Il n'est pas exemplaire, il a bien des défauts, mais pourtant il est vertueux. Harry Potter est le sujet de Qui Vive aujourd'hui en compagnie de Marianne Chaillant, qu'on retrouve d'ailleurs tout de suite après l'invocation d'une insoupçonnable magie, l'invocation réginale d'une insoupçonnable magie. Queen sur Europe 1, It's a Kind of Magic.
Europe 1, Qui Vive. Tous les samedis, 15h-16h.
It's a kind of magic. chante.
Un rêve, une âme, un prix, un but, un aperçu doré de ce qui devrait être. C'est une sorte de magie, un rayon de lumière qui indique le chemin. C'est de notre invité que parle Freddie Mercury, Marianne Chaillant, qui nous guide aujourd'hui dans les dédales de l'univers d'Harry Potter. A tout de suite.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1. Europe 1,
qui vive 15h, 16h.
Raphaël Antoven.
Harry Potter, dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas exactement Peter Pan. C'est un enfant battu qui fait le mur pour aller à l'école où l'attendent d'autres dangers. Et même si chacune de ses aventures commence par l'évasion de l'affreuse maison Dursley, on aurait tort de réduire le monde magique à une échappatoire, un autre monde possible qui serait simplement l'envers d'une autre.
Ah, Monsieur Potter. Lucius Malfoy. On se rencontre enfin. Vous permettez. Votre cicatrice est légendaire. Tout comme le sorcier qui vous l'a infligée.
Voldemort a tué mes parents. Il n'était rien d'autre qu'un meurtrier.
Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Ou très imprudent.
Avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même.
Et vous, vous devez être Miss Granger.
Pourquoi diable, Marianne Chaillant, faut-il ne pas nommer Voldemort, ce que je viens de faire d'ailleurs. Pourquoi faut-il taire ce nom? Pourquoi tout le monde l'appelle vous savez qui, you know who, ou bien celui dont on taira le nom, etc., etc. Pourquoi tant de périphrases? Pourquoi ne pas dire son nom, Lord
Justement,
Voldemort?
Il faudrait le dire, et vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse en le nommant.
Je suis plus sage que téméraire en le faisant, en vérité.
Exact.
C'est très important, c'est un enjeu à mon avis décisif. Comment se fait-il? Quel rapport doit-on entretenir avec le patronyme de l'ennemi par excellence?
Alors, nous parlions tout à l'heure de Platon. Il y a plein de philosophies dans Harry Potter, puisque il me semble que là, J.K. Rowling amène ses lecteurs à travers cette histoire de la nomination du Seigneur des Ténèbres.
Vers le cratil.
Et moi, je verrais plutôt vers les exercices spirituels auxquels nous invitent les stoïciens. Si vous vous rappelez, à l'époque, la philosophie se présente comme une thérapeutique. Elle prétend offrir à ceux qui la pratiquent les moyens d'être heureux, l'ataraxie. Et justement, ce qui nous prive du bonheur, pour du moins une partie de ce qui nous empêche d'être heureux, est lié au mauvais usage que nous faisons de notre jugement, selon les stoïciens. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, lorsque nous effectuons un jugement, en fait, il se déroule en trois étapes. Premièrement, nous effectuons une perception. C'est la fantasia.
On sent quelque chose. Bon, d'accord. Bien.
Ensuite, nous faisons un discours intérieur sur cette perception, deuxième étape. Et enfin, troisième étape, nous accordons notre assentiment à ce discours intérieur que nous avons construit à propos de la perception.
Donc, un, on éprouve, pour le dire vite, on va le faire en deux étapes. Un, on éprouve. Deux, on juge.
Exactement. Bon. Et tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils jugent précipitamment, de façon erronée. Ils appellent ça des représentations inadéquates. Et tout le malheur vient de là. Et c'est pourquoi.
C'est de cette façon que quelque chose d'aimable ou quelque chose qui nous est doux, on le déclarera aimable, en parlant ainsi au nom du monde entier alors que ça n'est doux que pour nous.
Par exemple, ou encore, par exemple, regardant l'orage, qui est une réalité naturelle comme une autre, nous pouvons être terrifiés parce que notre discours intérieur interprète de façon subjective une réalité objective à tort et crée un affect. Et le pouvoir des représentations inadéquates est très, très grave.
Alors revenons-en à Harry Potter.
Revenons-en
de ça,
donc à la nomination de ce bagage-là, du Seigneur des Ténèbres.
Ouais.
Partons chez Marc Aurèle qui nous dit « Lorsque vous craignez quelque chose, il faut toujours faire l'exercice spirituel en question. Ça s'appelle la définition physique. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à décrire l'objet ou à le nommer exactement tel qu'il est, à le voir en lui-même, précisément pour disjoindre de la réalité objective le discours intérieur qu'on a tenu sur lui et qui nous invite à mal l'interpréter et à subir. »
Donc c'est à séparer la chose de toutes les idées qu'on s'en fait.
Exactement. Revenons donc au Seigneur des Ténèbres, qui devient soit le Seigneur des Ténèbres, soit celui dont on ne dit pas le nom. Et effectivement, tous les personnages de la saga se refusent à le nommer, tous sauf Harry et Dumbledore, qui invitent régulièrement les personnages à oser nommer le Seigneur des Ténèbres par leur nom. C'est un leitmotiv, la peur du nom augmente la peur de la chose même. Dumbledore, lui, pratique l'exercice de définition physique naturellement, car il ne l'appelle pas même Lord Voldemort, comme vous l'avez fait tout à l'heure, il l'appelle Tom Jedusor. Et en effet, qui est Lord Voldemort sinon Tom Jedusor?
L'anagramme d'ailleurs, hein. C'est un jeu d'anagramme. Oui.
Et vous comprenez bien que si on nous annonçait, avouez-moi, que celui dont on ne dit pas le nom, le Seigneur des Ténèbres, venait de rentrer sur ce plateau, nous aurions peur. Par contre, répondre. Si on nous dit « Tom Jedusor est ici », nous aurions beaucoup moins peur. Reconduire l'objet à ce qu'il est en réalité, à sa réalité objective, le disjoindre des interprétations erronées que nous pouvons nous faire sur lui, voilà le moyen de nous déprendre des représentations inadéquates.
Dans l'interprétation des rêves, il y a un rêve de Freud comme ça qui est très intéressant, dans lequel il raconte qu'un homme voit arriver dans sa chambre une personne inconnue et célèbre, ce qui lui fait grand peur, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il parle de la mort, et le fait de pouvoir nommer la mort, qui est à la fois évidemment inconnue et évidemment célébrissime, le fait de pouvoir la nommer dissipe un peu l'angoisse. On n'est pas loin de ce propos avec l'extrait qu'on va entendre tout de suite sur l'épouvantard. Écoutez.
Nous allons nous exercer. Sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus.
Ridiculus.
L'incantation seule ne suffit pas. Ce qui neutralise un épouvantard, c'est le rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur?
Le professeur Rogue.
Pardon?
Le professeur Rogue.
Le professeur Rogue. Il fait peur à tout le monde. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire et voici ce que vous allez faire. Excusez-moi. Pensez au professeur Rogue avec les habits de votre grand-mère. Vous pouvez le faire? Oui. Préparez votre baguette. 1, 2, 3.
Ridiculus!
Europe 1, qui vive? Tous les samedis, 15h-16h. Raphaël Antoven.
Magnifique à quel point le jeu de l'épouvantard est utile et intéressant, puisqu'il s'agit au fond d'accoutrer ridiculement ce qui nous fait peur, donc de bien le connaître. Nommer ce qui nous fait peur est une première étape dans la dédramatisation. L'accoutrement vient après par voie de conséquence.
Là aussi, il nous semble qu'on est dans un exercice spirituel d'inspiration stoïcienne, où il s'agit d'apprendre à dévoiler ce qu'il y a d'inadéquat dans nos représentations. On pourrait du coup penser à Épictète dans son manuel, qui nous invite sinon à pratiquer la définition physique, du moins à nous dire à chaque fois, devant une représentation pénible, tu n'es pas ce que tu représentes, tu n'es pas tout à fait ce que tu représentes. Lupin, le professeur Lupin, entraîne ici ses jeunes élèves à disjoindre, encore une fois, l'objet tel qu'il est en lui-même de la représentation qu'on s'en fait.
Et on peut même le dire encore plus simplement et dire qu'au fond, quand un truc nous effraie, il suffit de le réinscrire dans la série des causes qui lui donnent le jour. Si dans l'obscurité on entend un bruit, on en a peur, et que soudain on s'aperçoit que c'est le chat qui a fait ce bruit, ou que c'est un truc qu'on avait mal rangé, etc., etc., le fait de donner une cause au bruit qui nous effraie dissipe par là même l'épouvante qu'il inspire, alors qu'elle prospère sur l'ignorance et sur le fait d'être soumis à sa peur.
Et là, ce qui est très beau en plus avec cette invention de l'épouvantard, c'est que l'épouvantard, c'est un être qui est sans forme a priori et qui va prendre la forme de la plus grande peur de la personne qui le perçoit. Donc ça permet vraiment de montrer la dimension créatrice et falsificatrice de la représentation, de l'interprétation que nous pouvons faire de la réalité objective.
Peur, désir, illusion, Harry Potter est au programme de Qui Vive aujourd'hui en compagnie, Harry Potter philosophe naturellement, en compagnie de Marianne Chaillant qui signe un excellent Harry Potter à l'école de la philosophie. On y revient dans un instant, après avoir écouté comme il se doit un extrait au moins de la plus sombre des musiques joyeuses, Danse macabre de Saint-Saëns sur Europe 1. Soldat, sorcier, empereur ou laborantin, que vous ayez les cheveux blonds ou bruns, que l'injustice vous étonne ou ne vous fasse rien, la danse macabre a été composée pour vous. C'est l'avantage de la mort, nul n'y échappe, pas même Harry Potter, sauf que lui meurt plusieurs fois, ce qui est pratique. A tout de suite.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1. Europe 1,
qui vive. 15h, 16h.
Harry Potter, dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas exactement Peter Pan. C'est un enfant battu qui fait le mur pour aller à l'école où l'attendent d'autres dangers. Et même si chacune de ses aventures commence par l'évasion de l'affreuse maison Dursley, on aurait tort de réduire le monde magique à une échappatoire, un autre monde possible qui serait simplement l'envers d'une autre.
Ah, Monsieur Potter. Lucius Malfoy. On se rencontre enfin. Vous permettez. Votre cicatrice est légendaire. Tout comme le sorcier qui vous l'a infligée.
Voldemort a tué mes parents. Il n'était rien d'autre qu'un meurtrier.
Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Ou très imprudent.
Avoir peur d'un nom ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même.
Et vous, vous devez être Miss Granger.
Pourquoi diable, Marianne Chaillon, faut-il ne pas nommer Voldemort, ce que je viens de faire d'ailleurs? Pourquoi faut-il taire ce nom? Pourquoi tout le monde l'appelle vous savez qui, you know who, ou bien celui dont on taira le nom, etc., etc. Pourquoi tant de périphrases? Pourquoi ne pas dire son nom? Lord
Justement,
Voldemort.
Il faudrait le dire, et vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse en le nommant.
Je suis plus sage que téméraire en le faisant, en vérité.
Exact.
C'est très important, c'est un enjeu à mon avis décisif. Comment se fait-il? Quel rapport doit-on entretenir avec le patronyme de l'ennemi par excellence?
Alors, nous parlions tout à l'heure de Platon. Il y a plein de philosophies dans Harry Potter, puisque il me semble que là, J.K. Rowling amène ses lecteurs à travers cette histoire de la nomination du Seigneur des Ténèbres.
Vers le Cratil.
Et moi, je verrais plutôt vers les exercices spirituels auxquels nous invitent les stoïciens. Si vous vous rappelez, à l'époque, la philosophie se présente comme une thérapeutique. Elle prétend offrir à ceux qui la pratiquent les moyens d'être heureux, l'ataraxie. Et justement, ce qui nous prive du bonheur, pour du moins une partie de ce qui nous empêche d'être heureux, est lié au mauvais usage que nous faisons de notre jugement, selon les stoïciens. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, lorsque nous effectuons un jugement, en fait, il se déroule en trois étapes. Premièrement, nous effectuons une perception. C'est la fantasia.
On sent quelque chose. Bon, d'accord. Bien.
Ensuite, nous faisons un discours intérieur sur cette perception. Deuxième étape. Et enfin, troisième étape, nous accordons notre assentiment à ce discours intérieur que nous avons construit à propos de la perception.
Donc, un, on éprouve, pour le dire vite, on va le faire en deux étapes. Un, on éprouve. Deux, on juge.
Exactement. Bon. Et tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils jugent précipitamment, de façon erronée. Ils appellent ça des représentations inadéquates. Et tout le malheur vient de là. Et c'est pourquoi.
C'est de cette façon que quelque chose d'aimable ou quelque chose qui nous est doux, on le déclarera aimable, en parlant ainsi au nom du monde entier alors que ça n'est doux que pour nous.
Par exemple, ou encore, par exemple, regardant l'orage, qui est une réalité naturelle comme une autre, nous pouvons être terrifiés parce que notre discours intérieur interprète de façon subjective une réalité objective à tort et crée un affect. Et le pouvoir des représentations inadéquates est très très grave.
Alors revenons-en à Harry Potter.
Revenons-en
de ça,
donc à la nomination du Seigneur des Ténèbres.
Ouais.
Partons chez Marc Aurèle qui nous dit « Lorsque vous craignez quelque chose, il faut toujours faire l'exercice spirituel en question. Ça s'appelle la définition physique. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à décrire l'objet ou à le nommer exactement tel qu'il est, à le voir en lui-même, précisément pour disjoindre de la réalité objective le discours intérieur qu'on a tenu sur lui et qui nous invite à mal l'interpréter et à subir. »
Donc c'est à séparer la chose de toutes les idées qu'on s'en fait.
Exactement. Revenons donc au Seigneur des Ténèbres, qui devient soit le Seigneur des Ténèbres, soit celui dont on ne dit pas le nom. Et effectivement, tous les personnages de la saga se refusent à le nommer, tous sauf Harry et Dumbledore, qui invitent régulièrement les personnages à oser nommer le Seigneur des Ténèbres par leur nom. C'est un leitmotiv, la peur du nom augmente la peur de la chose même. Dumbledore, lui, pratique l'exercice de définition physique naturellement, car il ne l'appelle pas même Lord Voldemort, comme vous l'avez fait tout à l'heure, il l'appelle Tom Jedusor. Et en effet, qui est Lord Voldemort sinon Tom Jedusor?
L'anagramme d'ailleurs, hein. c'est un jeu d'anagramme. Oui, oui.
Et vous comprenez bien que si on nous annonçait, à vous et moi, que celui dont on ne dit pas le nom, le Seigneur des Ténèbres, venait de rentrer sur ce plateau, nous aurions peur. Par contre, si on nous dit Tom Jedusor est ici, nous aurions beaucoup moins peur. Reconduire l'objet à ce qu'il est en réalité, à sa réalité objective, le disjoindre des interprétations erronées que nous pouvons nous faire sur lui, voilà le moyen de nous déprendre des représentations inadéquates.
Dans l'interprétation des rêves, il y a un rêve de Freud comme ça qui est très intéressant, dans lequel il raconte qu'un homme voit arriver dans sa chambre une personne inconnue et célèbre, ce qui lui fait grand peur, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il parle de la mort et le fait de pouvoir nommer la mort qui est à la fois fois évidemment inconnue et évidemment célébrissime, le fait de pouvoir la nommer dissipe un peu l'angoisse. On n'est pas loin de ce propos avec l'extrait qu'on va entendre tout de suite sur l'épouvantard. Écoutez.
Nous allons nous exercer. Sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus.
Ridiculus.
L'incantation seule ne suffit pas. Ce qui neutralise un épouvantard, c'est le rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur?
Le professeur Rogue.
Pardon?
Le professeur Rogue.
Le professeur Rogue. Il fait peur à tout le monde. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire et voici ce que vous allez faire. Excusez-moi. Pensez au professeur Rogue avec les habits de votre grand-mère. Vous pouvez le faire? Oui. Préparez votre baguette. 1, 2, 3.
Ridiculus.
Europe 1, qui vive.
Tous les samedis, 15h-16h.
Raphaël Antoven.
Magnifique à quel point le jeu de l'épouvantard est utile et intéressant, puisqu'il s'agit au fond d'accoutrer ridiculement ce qui nous fait peur, donc de bien le connaître. Nommer ce qui nous fait peur est une première étape dans la dédramatisation. L'accoutrement vient après par voie de conséquence.
Là aussi, il nous semble qu'on est dans un exercice spirituel d'inspiration stoïcienne, où il s'agit d'apprendre à dévoiler ce qu'il y a d'inadéquat dans nos représentations. On pourrait du coup penser à Épictète dans son manuel qui nous invite sinon à pratiquer la définition physique, du moins à nous dire à chaque fois devant une représentation pénible, tu n'es pas ce que tu représentes, tu n'es pas tout à fait ce que tu représentes. Lupin, le professeur Lupin, entraîne ici ses jeunes élèves à disjoindre encore une fois l'objet tel qu'il est en lui-même de la représentation qu'on s'en fait.
Mais on peut même le dire encore plus simplement et dire qu'au fond, quand un truc nous effraie, il suffit de le réinscrire dans la série des causes qui lui donne le jour. Si dans l'obscurité on entend un bruit, on en a peur et que soudain on s'aperçoit que c'est le chat qui a fait ce bruit ou que c'est un truc qu'on avait mal rangé, etc., etc., le fait de donner une cause au bruit qui nous effraie dissipe par là même l'épouvante qu'il inspire, alors qu'elle prospère sur l'ignorance et sur le fait d'être soumis à sa peur.
Et là, ce qui est très beau en plus avec cette invention de l'épouvantard, c'est que l'épouvantard, c'est un être qui est sans forme a priori et qui va prendre la forme de la plus grande peur de la personne qui le perçoit. Donc ça permet vraiment de montrer la dimension créatrice et falsificatrice de la représentation, de l'interprétation que nous pouvons faire de la réalité objective.
Peur, désir, illusion. Harry Potter est au programme de Qui Vive aujourd'hui en compagnie. Harry Potter, philosophe naturellement, en compagnie de Marianne Chaillant qui signe un excellent Harry Potter à l'école de la philosophie. On y revient dans un instant, après avoir écouté comme il se doit un extrait au moins de la plus sombre des musiques joyeuses, Danse macabre de Saint-Saëns sur Europe 1. Soldat, sorcier, empereur ou laborantin, que vous ayez les cheveux blonds ou bruns, que l'injustice vous étonne ou ne vous fasse rien, la danse macabre a été composée pour vous. C'est l'avantage de la mort, nul n'y échappe, pas même Harry Potter, sauf que lui meurt plusieurs fois, ce qui est pratique. A tout de suite.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1.
V.fr.
Europe 1, qui vive. Tous les samedis, 15h-16h.
Raphaël Antoven.
Vous êtes-vous jamais demandé pour quelle raison, chers auditeurs, la saga de Harry Potter était, film après film, devrais-je dire plutôt livre après livre, de plus en plus sombre? C'est vrai, au début, on partage la joie d'un enfant qui échappe à ses Thénardier, donc les tentes, pour rejoindre le monde magique des sorciers, mais on sombre assez vite dans la terreur, comme si son adolescence était une descente aux enfers, voire la rencontre d'un destin funeste.
Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre ?
Pas à Serpentard,
n'est-ce pas ? Tu es sûr ? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non ?
S'il vous plaît.
Très bien, si tu es sûr de toi.
Tout sauf Serpentard.
Il vaut mieux. Gryffondor !
Ce qui est merveilleux dans Harry Potter, c'est que les objets magiques jouent avantageusement le rôle des objets techniques chez les moldus, c'est-à-dire les simples mortels comme vous et moi, Marianne Chaillant. Les journaux, par exemple, présentent des photos qui sont mobiles. Un peu comme nos iPads peuvent le faire sur une édition récente d'un journal. Les baguettes magiques ont à peu près moins de pouvoir que nos smartphones. Le choix-pot, en l'occurrence, qui est celui qui parle, c'est un chapeau qui décide de l'appartenance d'un élève qui arrive dans l'université des sorciers. Je dois choisir entre quatre familles, Serpentard, Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle. Et c'est un choix qui le fait ressembler de très près, tout simplement, à un bon DRH, Marianne Chaillant. C'est intéressant de voir ces collusions, au fond, ou la façon qu'a J.K. Rowling de traduire en magie ce qui relève des outils les plus ordinaires de la vie quotidienne.
Cette scène d'entrée à Poudlard nous amène tout de suite à une question de philosophie classique, celle de la liberté humaine qui est au cœur de la saga, ouais. Et qui est tellement au cœur de la saga d'ailleurs qu'elle est au cœur de la pièce de théâtre qui est sortie hier, Harry Potter et l'enfant maudit. Il semble que ça soit une question qui agite beaucoup J.K. Rowling, celle de savoir si le destin est écrit ou si le futur est contingent et s'il nous appartient de nous choisir nous-mêmes.
D'ailleurs, Harry Potter lui-même, à la fin des Reliques de la Mort, donc à la toute fin de la saga, enfin à la fin, celle qui était la fin jusqu'à l'apparition du 8e volume, Harry Potter dit à son fils qu'il est lui-même nommé d'après deux personnages. L'un, Dumbledore, vient de Gryffondor. L'autre, Severus Rogue, arrive de Serpentard. Ce qui veut dire qu'au fond, il ne faut pas juger les professeurs selon leur famille d'origine.
Et cette cérémonie de répartition, on pourrait croire du coup que le choix-pot décide pour nous et qu'au fond, la liberté ne soit pas donnée à celui qui entre à Poudlard de choisir sa maison. Et vous vous rappelez pourtant que lors de la scène finale justement des Reliques de la Mort que vous évoquez, Harry dit à son fils qui craint d'être affecté à Serpentard, non seulement qu'effectivement Severus Rogue est un Serpentard et que c'était une très bonne personne, mais que par ailleurs ce sont nos choix qui vont décider de notre orientation dans telle ou telle maison. Cette phrase est un leitmotiv dans l'œuvre. Ce sont nos choix qui décident de ce que nous sommes, beaucoup plus que nos aptitudes. Harry avait l'aptitude.
Rappelons que Harry, il est orphelin, il est sorcier, il est envoyé à Gryffondor, il a failli mourir et il porte en lui une cicatrice qui emporte le témoignage vibrant, et il porte en lui quelque chose d'extraordinairement mauvais, ce qu'il ignore au début. Bien, tout cela n'entame pas la liberté qui est la sienne de faire les choix qu'il fait, et donc la responsabilité qui accompagne les choix qu'il fait.
Exactement. Cette thèse de la liberté, effectivement, se double du cadeau ou du poison de la responsabilité. Nous sommes entièrement responsables, bien que nous soyons dans ce que Sartre appelle une situation. Nous naissions tous dans un certain contexte. Harry, vous venez de rappeler le contexte dans lequel il est venu au monde, qui est d'ailleurs le même que celui de Voldemort. Et bien justement, la situation...
Ils sont orphelins tous les deux.
Et bien justement, la situation n'est pas déterminante. C'est à nous de conférer un sens à la situation en fonction de l'interprétation que nous en ferons.
Voldemort tourne mal parce qu'il a peur de mourir, on ne va pas en dire davantage. Il tourne mal parce qu'il a peur de mourir et qu'il veut entreposer son âme quelque part. Bon, Harry Potter tourne bien parce qu'il a des amis peut-être, ou parce qu'il est fait, il est ainsi fait que ses choix sont meilleurs. Quand je dis ça, en même temps, je me dis qu'il est déterminé à choisir comme il le fait. Si je vous dis qu'il est ainsi fait que ses choix sont meilleurs, je me demande s'il est encore libre.
Je pense que ça a plus de on fait plus crédit à J.K. Rowling de dire qu'il est libre, parce que pour le coup, du coup, on oppose un choix actif qui serait celui de Harry, le choix actif. Plutôt, ce qui me semble faire sa force par rapport à Voldemort, c'est cette acceptation qu'il fait de la mort qui vient, nous en reparlerons sans doute, là où Voldemort la refuse précisément.
Ce genre d'indécision, de détermination ou de liberté qui l'emporte est particulièrement spectaculaire dans les discussions que Harry Potter peut avoir avec son parrain, Sirius Black. Écoutez ça.
Harry. Cette connexion entre moi et Voldemort, et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui, et si à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées, quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois devenu mauvais.
Harry, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Tu as compris ? Et puis, dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes.
Europe 1, Raphaël Antoven.
Ce qui est intéressant, c'est que celui qui lui dit ça a longtemps été perçu par Harry Potter comme un assassin, justement, Sirius Black, puisque Le Prisonnier d'Azkaban, le troisième volume des aventures de Harry Potter, commence par l'évasion de Sirius Black qui terrifie tout le monde et dont Harry Potter se dit qu'il en veut à sa peau. En réalité, c'est son parrain, en réalité, c'est presque son père adoptif, c'est son père de substitution, c'est un type merveilleux. C'est Gary Oldman qui incarne Sirius Black dans les films. Et c'est un personnage tout à fait fondamental parce qu'il apprend justement à Harry Potter à se rendre maître de sa propre liberté, justement.
C'est vrai, c'est un professeur de liberté pour Harry. Et d'ailleurs, cette scène que nous venons d'écouter a lieu devant, au mur, dans la maison des Black, une broderie qui représente toute la généalogie de la famille Black, qui est une famille de mange-mort, et à laquelle Sirius a su transcender son déterminisme familial.
Il faut dire un mot sur les mange-morts. Hein. C'est pas des vampires, les mange-morts.
Non, c'est vrai. Les mange-morts, ce sont les partisans, justement, de Lord Voldemort. Ceux qui font le choix du mal. Et Sirius Black, parrain de Harry, descend d'une famille de sorciers qui, traditionnellement, a pris le parti du Seigneur des Ténèbres. Comme son frère Régulus, d'ailleurs, dont on apprendra l'existence plus tard, tous deux montrent que notre situation n'est pas déterminante, qu'il nous appartient de nous choisir. Nous appartient de conférer un sens à la situation.
Notre situation n'est pas déterminante. On est ici chez Sartre, Marianne Chaillant, il faut le dire à nos auditeurs. C'est-à-dire, au cœur du paradoxe qui vaut à un individu d'être à la fois déterminé par son appartenance, par sa sociologie, par les circonstances, et en même temps d'être en mesure ou en situation précisément de prendre une décision qui, sans transcender tout cela, inscrit quand même un peu de liberté dans la matière du monde. Dans quelle mesure Harry Potter permet de comprendre ce grand paradoxe sartrien d'une liberté qui est toujours prise en situation ?
Eh bien, si on revient à Harry et Voldemort qui ont une étrange ressemblance, comme Lord Voldemort d'ailleurs le fait remarquer à Harry, ils se ressemblent, ils ont une situation commune. On parlait tout à l'heure du fait qu'ils sont orphelins. Il y a plein d'autres similitudes entre ces deux personnages.
Par exemple,
c'est d'ailleurs lié au fait que, bon, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Harry contient une part de Lord Voldemort en lui. Il parle fourche langue. Pour tous les deux, Poudlard est la seule maison qu'ils aient réellement connue. Tous deux ont grandi dans un contexte...
Fourche langue, c'est la langue des serpents.
Oui, c'est vrai.
Ils la parlent naturellement, ça leur vient. Ils s'en aperçoivent même pas, tellement elle leur vient naturellement.
Tous deux ont eu une enfance pleine de violence. Harry a été maltraité par son oncle et sa tante. On pourrait croire qu'il a eu une enfance plus joyeuse, mais pas du tout. Il a vraiment été maltraité. Et les films atténuent d'ailleurs la violence qui est présente dans les livres. Alors que Lord Voldemort, Tom Jedusor, a grandi dans un orphelinat où lui aussi il a connu une certaine violence. Bref, ils partagent une même situation. Ce qui amène Harry, dans l'extrait que nous venons d'écouter, à éprouver une certaine crainte d'être pris dans un devenir Voldemort, comme si ces similitudes, comme si cette nature commune l'amenait à devenir nécessairement un homme mauvais.
Et précise... Situation jumelle, comportement différent.
Et exactement, et Sirius lui fait remarquer que nous pouvons partager une même situation, un même nombre d'héritages, et pour autant les interpréter d'une manière différente, les prendre appui sur eux de manière telle que nous construisions un futur différent.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'évidemment, quand on présente à nos auditeurs ou aux spectateurs ou aux lecteurs de Harry Potter ce genre de paradoxe, personne n'y trouve rien à redire. Bien sûr que nous avons une situation, mais enfin, on a quand même un libre arbitre qui nous rend responsable de nos actes. Bien. Seulement, en pratique, c'est une profession de foi politique, ça. Parce que c'est une récusation de toute culture de l'excuse et de toute idée qu'au fond... Allons du côté de Voldemort, tiens, justement. Les frères Quashy ont eu une enfance difficile. Je veux dire, Hitler aussi a eu une enfance difficile. Un tel argument est battu en brèche par le simple constat que deux individus qui ont la même difficulté de départ produisent soit tantôt Voldemort, tantôt Harry Potter, Marianne Chaillant.
Et celui qui imputerait à sa nature ou à sa situation l'homme qu'il est devenu, oui, serait ce que Sartre appelle un salaud.
Le salaud, c'est celui qui dit « c'est pas de ma faute ».
C'est la faute de mon enfant.
Choixpeau, finitude et liberté. Et si tout Harry Potter tenait en une seule question, que faire du peu de temps que la vie nous laisse et du sort qui nous est donné ? On y revient dans Qui vive dans un instant, après avoir subi les foudres de Nina Simone, la fée noire qui jette des sorts, tiens justement.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're mine.
L'amour est-il une magie? Quelle place aux sentiments dans l'univers des sortilèges? Du diable et de l'illusionnisme sur Europe 1 aujourd'hui. Harry Potter est notre invité.
À quelques semaines du premier tour de la primaire de la droite et du centre, tous les candidats ont rendez-vous sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, Thomas Sotto.
Après Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet et François Fillon, c'est au tour d'Alain Juppé de venir répondre à nos questions. Toutes ces propositions seront passées au crible de la rédaction. Vous pourrez également interroger Alain Juppé en direct.
Les lundis de la primaire, votre matinale spéciale sur Europe 1.
Rendez-vous lundi avec Alain Juppé à partir de 7h30.
Captain Fantastic, un film lumineux selon elle. Un superbe film d'aventure et d'émotion selon Gala. Viggo Mortensen est épatant selon GQ. Un formidable voyage entre Little Miss Sunshine et Into the Wild. Un petit bijou à ne pas manquer selon Combini. Captain Fantastic, actuellement au cinéma. Avec Europe 1.
Après l'été, offrez à vos cheveux une cure beauté et vitalité avec Phytophanair. Phytophanair, le complément alimentaire dédié à la force et à la croissance des cheveux et des ongles. En ce moment, en pharmacie et parapharmacie, 2 mois achetés, c'est 2 mois offerts. Phyto, santé et beauté des cheveux par les plantes. Dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Mangezbouger.fr.
Danse avec les stars est de retour. Ce soir, 11 nouvelles personnalités entrent en piste. Elles auront une danse pour convaincre les juges et vous éblouir. Danse avec les stars, présentée par Sandrine Quétier et Laurent Ronac, tous les samedis à 20h55. TF1, partageons des ondes positives.
Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus.
Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari.
Ah oui, et cheval au balcon, Quintet à Pâques.
C'est pas faux.
Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garanti en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre.
Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans moins d'une minute, la suite de Qui vive, consacrée aujourd'hui à Harry Potter. Pour en parler, Raphaël Antoven reçoit Marianne Chaillon sur Europe 1.
Qui vive? Raphaël Antoven.
L'une des bizarreries, sinon peut-être la seule, de la saga Harry Potter est que la peur de la mort n'est pas soluble dans la cohabitation avec des fantômes. L'existence de tableaux vivants, de spectres sympathiques, acariâtres ou farceurs n'a aucune prise sur une trouille qui ressemble en tout point à celle des simples mortels. À quoi tient la coprésence d'un univers baroque, dément, sympathique, post-mortem et finalement assez inoffensif et d'une peur typiquement humaine de mourir ?
À Horcrux.
Je vous demande pardon ?
À Horcrux. Je suis tombé sur ce mot dans un texte. Et je ne l'ai pas totalement compris.
Je ne sais pas ce que vous lisiez, Tom, mais c'est de la magie très noire, vraiment très noire. Un horcrux est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. On sépare son âme en deux, on cache une partie dans un objet, En faisant cela, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit.
Protégé ?
La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir.
Et comment fait-on pour séparer son âme en deux, monsieur ?
Je pense que vous connaissez déjà la réponse, Tom.
Un meurtre.
Oui. Tuer déchire votre âme. C'est un acte contre nature.
Et c'est ainsi que le transhumanisme n'a rien inventé, Marianne Chaillant, puisque J.K. Rowling a pensé avant nos amis transhumanistes que on pouvait déposer d'une certaine manière nos esprits dans un disque dur externe qu'elle appelle ici opportunément Horcrux. Quelques mots sur cette affaire-là si importante.
La création donc des Horcrux, vous avez raison d'ailleurs, pour ce lien avec le transhumanisme, est la dernière étape de ce cheminement que Lord Voldemort entreprend dans sa quête de l'immortalité. Quand on le rencontre, il boit le sang des licornes, dont on dit à l'époque, à ce moment-là, que c'est un acte maléfique et qu'il condamne l'âme de celui qui se prend une telle action à la damnation. Ensuite, il utilise les ossements de son père pour revenir. Notons d'ailleurs que comme il l'avait tué, utiliser ses ossements pour revenir, ce n'est pas la pire chose qu'il ait pu faire à son père. Et enfin, il crée des horcruxes. Alors les horcruxes, effectivement, cela permet, et cela marche, à Voldemort de ne pas être tué lorsque le sortilège qu'il jette sur Harry rebondit sur lui au début de la saga.
On revient au début, hein, au début de la saga. Lord Voldemort veut tuer Harry Potter. Il n'y arrive pas parce que la mère de Harry Potter se sacrifie, s'interpose, le couvre, le protège de son amour, en définitive. Voldemort n'y parvient pas, et donc,
il est détruit, mais il ne meurt pas.
Voilà.
Et lorsque nous le rencontrons dans le premier volume de la saga...
Il est tout chétif. Hein.
Il est tout chétif. Il est obligé d'être greffé, pour ainsi dire, à un autre être vivant pour survivre, le professeur Quirrell d'ailleurs. Bon, ces horcruxes, c'est ce qui entraîne, c'est ce dont nous parlions au début de l'émission, à l'enlaidissement, à l'altération physique de Lord Voldemort, puisqu'à chaque fois qu'il commet un meurtre, son âme est déchirée en deux. C'est une thèse platonicienne. Tuer déchire l'âme. C'est du J.K. Rowling, c'est aussi du Platon. Tuer déchire l'âme. Une fois que l'âme est déchirée, eh bien on prend un bout de cette âme et on la place dans un horcrux.
Voilà, tout simplement. Et alors, parmi les horcrux, il y a un serpent, il y a un pendentif, il y a des tas de choses. Il y a aussi des humains qui sont des horcrux et qui, du coup, doivent mourir pour que Voldemort lui-même disparaisse. Un point sur celui qui apprend à Tom Jedusor, futur Lord Voldemort, l'utilisation des horcrux, le professeur Horace Slughorn. C'est un personnage secondaire dans Harry Potter, mais c'est un personnage très intéressant. D'abord parce qu'il est très sympathique alors qu'il appartient à Serpentard, ce qui n'est pas l'usage en général chez les Serpentards. Il est extraordinairement snob et admiratif des sorciers qui ont plus de pouvoir que lui, donc il invite tout le temps Harry Potter à dîner parce qu'Harry Potter est très célèbre. Mais surtout, c'est quelqu'un qui falsifie son souvenir. Il ne veut pas que l'on sache qu'il est à l'origine de la méthode d'immortalité que Voldemort met au point en déposant son âme en plusieurs morceaux. Il falsifie son propre souvenir. C'est un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne un instant, Marianne Chaillant. Comment on peut travailler sa propre mémoire, au fond, dans cette histoire? C'est quand même intéressant. On peut pas faire ça avec... Enfin, Staline faisait ça avec les photos.
C'est vrai qu'il la falsifie, puisque lorsque Harry essaie de lui voler ce souvenir, enfin du moins de lui retirer, c'est très beau cette idée d'ailleurs, que les souvenirs peuvent être transmis à quelqu'un à travers des larmes.
On prend un morceau de larmes,
on prend un morceau de pensée et on le dépose dans la fameuse pancine.
Dans une pancine et le souvenir soudain rejaillit.
Et on peut le revivre. Ouais. Ainsi à l'identique. Et Slughorn trafique son souvenir car il éprouve beaucoup de culpabilité, sinon d'avoir été à l'origine de cette méthode des Horcruxes, du moins... C'est lui qui a dévoilé à Lord Voldemort, au jeune Tom Jedusor, le moyen de créer un Horcrux. Il n'a pas inventé la méthode, mais il la dévoile.
C'est lui qui le lui apprend. Il en a honte, il le falsifie, ce qui prouve aussi qu'on peut travailler justement la mémoire et que les souvenirs qu'on a ne sont pas forcément les bons souvenirs, justement. On n'est pas loin du totalitarisme ici, hein, de 1984, qui réécrit l'histoire au gré de ce que le gouvernement présent exige de faire savoir à son peuple. Restons avec vous dans la pancine, Marianne Chaillant. Dans la pancine, c'est-à-dire dans ce lieu, dans cette cora, dans cet habitacle où les souvenirs apparaissent. En voici un autre qui est particulièrement touchant puisqu'il s'agit d'une larme du professeur Rogue.
Le soir où Lord Voldemort est allé à Godric's Hollow pour tuer Harry, lorsque Lily s'est jetée entre eux pour faire bouclier, le sortilège a ricoché. À cet instant, un fragment de l'âme de Lord Voldemort s'est détaché et s'est accroché au seul être vivant qu'il a trouvé, Harry lui-même.
donc quand l'heure sera venue, Potter devra mourir?
Oui. Oui, il doit mourir.
Europe 1. Qui vive? Raphaël Antoven.
Le sacrifice est une condition de la victoire. C'est l'un des enseignements de Harry Potter. C'est-à-dire, au fond, l'idée que il y a dans la vie des choses qui comptent plus que ma propre vie. Et ce qui fait la vertu d'un homme est aussi sa capacité à... C'est une phrase d'Anna Arendt. Renoncer à sa propre vie au profit de la liberté du monde, Marianne Chaillant.
Et c'est ce que fait effectivement Harry, qui apprend donc ici dans les reliques de la mort qu'il est condamné à devoir mourir pour sauver le monde du Seigneur des Ténèbres. Il accepte cette annonce sans mouvement de refus et il va marcher dans la forêt interdite au devant de la mort, non sans crainte, mais avec une certaine acceptation. Il a compris que sa tâche, et c'est d'ailleurs sa tâche en fait depuis le début de la saga, consiste à marcher calmement dans ce que Dumbledore appelle les bras accueillants de la mort. Il va au-devant de la mort, et c'est en cela qu'il est le maître de la mort. Je ne sais pas si on va parler ici des reliques qui donnent leur nom au dernier opus de la saga, les reliques de la mort.
Les reliques de la mort, oui.
Toute la saga s'articule autour de cette question de la finitude. Doit-on chercher à la fuir, à la conjurer, ou doit-on l'accepter? Harry est le vrai maître de la mort, non parce qu'il possède les reliques, il les possède,
mais parce qu'il accepte de mourir.
Et parce qu'il accepte sa mort. Et c'est pourtant un cheminement, cela ne va pas de soi. Il s'est raidi plusieurs fois devant la souffrance de l'existence, devant la perspective de la mort, devant la mort de ses proches, devant celle de Sirius, devant celle de Dumbledore. Et au terme de tout ce chemin, de ces 7 tomes, Harry accepte de devoir mourir.
Là encore, les enjeux politiques sont considérables, hein, Marianne, pardon, mais c'est quand même très important. Mettons que le transhumanisme, justement, se donne comme une façon de ne pas mourir quand on meurt, ou de considérer qu'il y a quelque chose de nous qui ne meurt pas quand on meurt, et donc d'organiser d'une certaine façon cette survie à la façon dont Voldemort organise la survie de son âme en la fractionnant et en la répartissant en 7 endroits différents. Bon, mettons que ce soit ça l'enjeu. La véritable maîtrise, elle n'est pas de garantir, de perpétuer indéfiniment le temps qu'on passe sur Terre, mais de ne pas tenir pour une catastrophe le moment où ma vie s'achève et non pas la vie.
Exactement. Je ne sais pas si J.K. Rowling s'est prononcée sur ces problématiques de transhumanisme, mais vous avez raison de lire sa saga de cette manière et il semblerait du coup que son opinion soit... Que cette...
On est en amont des problématiques contemporaines sur le transhumanisme. Le Horcrux, c'est il y a 20 ans qu'elle l'a inventé.
Elle l'a écrit, oui, je crois, en 2007 ou quelque chose comme ça.
Oui, et moins de 20 ans. Oui.
Effectivement, elle nous dit que la quête de l'invulnérabilité, ce n'est qu'un fantasme, que pour un humain, avoir mal, souffrir, c'est comme respirer. C'est intrinsèque à la condition humaine, et vouloir effacer cela de la condition humaine, eh bien, c'est nier son humanité.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le succès de Harry Potter n'est pas le succès d'un monde enchanté. On en revient à ce que je disais au début. C'est très triste, Harry Potter. C'est très dur. Je veux dire, on donne ça à lire à des enfants de moins de 18 ans. Je veux dire, que fait la police quand même? C'est un truc insensé. Alors, ça a converti à la lecture. C'est ce livre sans complaisance, qui ne cache rien, cette saga sans complaisance, qui a converti des millions d'enfants à la cause de la lecture. C'est quand même étonnant, ça.
C'est magnifique. Vous vous rappelez, on a tous en tête ces images de librairies prises d'assaut le jour de la sortie des premiers livres. Et ces jeunes qui lisaient des pavés énormes, et ces pavés, eh bien, ce n'était pas simplement du divertissement.
C'est pas le merveilleux qu'ils vont chercher, c'est ça que je veux dire ici.
Et ce n'est pas simplement du divertissement, ils y trouvaient une leçon de philosophie, une leçon de sagesse.
Une leçon de sagesse qui est qu'on vit mieux quand on accepte l'imminence de la mort sur chacun de nos actes. Comment, en un mot, on arrive au terme de cette discussion?
Chercher à vaincre la mort, c'est avoir perdu. Et que la véritable victoire contre la mort, c'est précisément de l'accepter.
La vraie défaite est donc de vouloir remporter la victoire contre la mort. Merci Marianne Chaillant. C'est sur ces mots que l'émission s'achève. Merci vraiment d'être venue nous parler de Harry Potter, que vous connaissez si bien. Harry Potter à l'école de la philosophie, c'est de vous, c'est chez Ellipse. Et c'est très bien, comme tout ce que vous faites, ou comme presque tout ce que publie Ellipse. Un viatique donc pour lire ou redécouvrir les aventures de Harry Potter, ce que vous ne regretterez pas, chers auditeurs. Autre viatique pour entrer dans l'œuvre de J.K. Rowling, le hors-série de Philosophie Magazine, ourdi par l'excellent Sven Hortely. Alors que les choses soient claires, je suis mal placé pour vous en parler, puisque j'y ai collaboré, vous aussi Marianne Chaillant, mais ça, c'est une raison suffisante de l'acheter et de vous y plonger. Merci à Julien Tricard, qui prépare ses émissions avec le talent que met Harry Potter à fabriquer des filtres d'amour, à Thomas Caillé, qui les réalise avec la rigueur du professeur Rogue et sans sa mauvaise humeur. Retrouvez Qui Vive en ligne toute la semaine et sans pub, évidemment, et samedi prochain de 15h à 16h. On se retrouve aussi chaque matin du mardi au vendredi, seulement pour cause de lundi de la primaire, à 8h25 dans la matinale de Thomas Otto. Et dans l'immédiat, on délaisse la magie pour une autre magie sur Europe 1. Pancine, Horcrux et Cape d'invisibilité ne sont d'aucun usage quand la musique prend le pouvoir. Il n'y a que la baguette peut-être qui serve encore. Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas, magicien du micro, chef d'orchestre en studio, prennent le pouvoir tout de suite sur Europe. À vous de jouer les amis.